Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est toujours en compagnie de Thibaut Texer, de Pierre Rondeau, d'Anne-Sophie Saint-Père et de Fred Hermel. Dans un instant, on sera également avec vous au 32-16 sur l'application RMC pour parler de ces 45% de célibataires qui seraient prêts à se mettre en couple avec leur meilleur ami. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Dites-nous, bien sûr, ce que vous en pensez. 14h30, RMC s'engage pour vous et l'histoire de Romain qui est en litige avec Amazon. Il a commandé une carte graphique à plus de 1000 euros et a reçu à la place une bouteille d'alcool turc. Et Amazon dit que non, c'est normal. Bon, écoutez, on verra ça avec Élise Dangean. On essaiera de régler ce problème qui, comme ça, paraît totalement insoluble. Il y aura les immanquables, bien sûr, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis, peut-être que nous ouvrirons le coffre RMC dans quelques minutes, Thibaut.
Ah oui, à gagner aujourd'hui une Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 et deux volants Switch. Si vous êtes joueur, vous pouvez l'ouvrir, ce coffre, pour tenter de remporter soit une PlayStation 5, une PlayStation Classic Mini ou un chèque de 500 à 2500. 100 euros, vous envoyez par SMS coffre 732-16 pour jouer. Coffre 732-16.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite au chiffre du jour dans Estelle Midi. 45%, c'est le nombre de célibataires qui seraient prêts à se mettre en couple avec leur meilleur ami. Mais est-ce vraiment mieux qu'avec un ou une inconnue, Thibaut Texer?
Alors, ce serait même la clé d'une relation amoureuse. Selon une étude de l'Université du Texas, ça donnerait un aspect plus attractif à la relation, mais aussi plus solide, puisqu'il y aurait moins de ruptures quand on a été ami avec quelqu'un avant de se mettre en couple, en raison de la solidité, en raison de la connaissance de l'autre. Selon un sondage réalisé par la société Faire par Tri, 24% des personnes sondées ont débuté leur relation par une amitié avant de tomber amoureux. Un tiers d'entre eux avouent avoir une attirance pour leur partenaire actuel. Ils sont 2% à déclarer ne pas avoir supporté leur conjoint au début de leur amitié. Le site de rencontre Happn, tu l'as dit, a lui aussi enquêté. 45% des personnes interrogées se disent ouverts à l'idée de se mettre en couple avec un ou une amie. Il faut pour cela se poser la bonne question. Être prêt à courir le risque de perdre une amitié peut-être solide.
Alors, est-ce que se mettre en couple avec son meilleur ami, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pierre Rondeau, je sais que ça vous est arrivé.
Non, je me suis pas mis en couple avec elle.
Ah.
Je racontais ma vie là, mais
oui, on adore.
Quand j'étais étudiant, j'avais une très bonne amie, c'était même ma meilleure amie, enfin je l'adorais. Et je suis effectivement tombé amoureux d'elle. Mais je suis tombé dans ce qu'on appelle la friend zone. Oui, effectivement, on était amis. Et après, on pourrait débattre sur est-ce que l'amitié fille-garçon existe, c'est un autre débat, mais on a d'abord été amis et je suis tombé amoureux d'elle. Et c'est vrai que là, je vous demandais de reparler de choses du passé qui me paraîtent lointaines. Mais c'est vrai que j'étais vraiment. Ah oui, non, mais j'étais vraiment amoureux d'elle.
Et vous avez fait votre demande?
Ouais, non, mais j'étais nul. Si je repense à ce que je faisais, ouais, j'avais fait une demande, j'avais fait une déclaration. Oh là là. Au départ, elle m'avait dégagé, mais comme elle m'appréciait en tant qu'amie, elle est revenue vers moi. Donc moi, ça me faisait du mal. En fait, voilà, c'est ce côté.
Et c'est encore votre amie ou
pas? Non, justement. Et c'est là-dessus où là, je pourrais témoigner sur le débat. C'est que déjà moi, me concernant, j'y crois pas. Peut-être parce que j'ai connu cette expérience et que ça m'a fait du mal. En fait, j'y repense maintenant. C'était il y a longtemps, hein, mais j'étais pas très bien à cette époque. Et ce que je pense sur ça, c'est que s'il y a rupture, il y a aussi père de ça ou de son meilleur ami. Effectivement, Marie, elle s'appelait.
Exactement.
Je ne lui parle plus et elle ne me parle plus. Et malheureusement, j'avais tenté de reprendre contact avec elle après le confinement. Parce que je pensais à elle, mais juste pour des questions amitié et amicales. Et elle m'a envoyé un message d'une platitude absolue qui m'a fait beaucoup de mal. Et depuis, on ne se parle plus. Alors que c'était 10 ans d'amitié.
Ça vous a bien plombé cette dernière heure, cette histoire, mais enfin.
Non, mais donc, ouais, oui. Non, c'est pour ça.
C'est une mauvaise idée. Voilà.
Me concernant, je suis pas de l'avis de tout le monde. Voilà.
Tout à fait. Mais on aura beaucoup d'auditeurs, qui patientent au standard pour réagir sur ce sujet. On aura Catherine Solano, également notre sexologue préférée, dans un instant. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que finalement, quand on se met avec son meilleur ami, c'est parce que c'est faute de mieux, parce qu'on n'a pas trouvé et qu'on n'a pas envie d'être seul, quoi?
Ouais, j'espère pas. Mais après, moi, je dois dire que ça m'est jamais arrivé. Hein. Et en fait, globalement, si je suis amie avec quelqu'un, c'est il y a une raison. C'est qu'on n'a pas vraiment envie de se mettre ensemble.
C'est qu'on n'est pas attiré, quoi.
Bah oui, c'est ça. Oui. Et c'est qu'on a d'autres types de liens. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Mais bon, après, encore une fois, ce n'est que mon expérience. Et il y a plein de gens chez qui ça peut marcher.
Fred Hermel, vous ?
C'est dans l'autre sens, moi.
C'est-à-dire ?
Je suis devenu ami d'ancienne petite amie.
Ah, mais ça, c'est plus simple, je crois.
Bah oui, mais bien sûr. Et d'ailleurs, ça forge des amitiés très, très fortes. Parce que comme on se connaît vraiment intimement, ça permet après de... Puis après, quand on parle de ses déboires amoureux, etc., la personne peut comprendre, quoi.
Mais l'inverse, vous n'êtes jamais arrivé. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été ami avec quelqu'un et tout d'un coup, cette amitié, d'un coup, vous l'invitez à dîner et vous ressentez les petits papillons, vous voyez quelque chose.
Non, je ne pense pas. Et je pense, et l'exemple de Pierre qui était très touchant, je pense que le problème, c'est qu'il y a souvent un décalage dans l'amitié. S'il y a quelqu'un qui. C'est très rare que les deux sentent une attirance physique parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'amitié.
Exactement.
L'un des deux va souffrir.
On est d'accord.
Mauvaise idée.
On est d'accord.
Tu vois que Pierre, on est d'accord sur des
choses. Là-dessus, oui, c'est vrai. Quand on est ami, on est ami.
Parce que si tu es attiré dès le départ,
On est d'accord.
Mais oui. Si t'es ami, en fait, tu sais déjà tout de l'autre.
C'est vrai. Donc, peut-être que moi, au fond de moi, quand je suis devenu ami avec elle, c'était juste parce que je voulais la séduire.
C'était une tactique.
Et c'est une mauvaise tactique.
Joué, c'est comme ça. Nous sommes avec Franck, qui nous appelle Doulgat dans le Calvados. Bonjour, Franck.
Bonjour, mademoiselle Estelle.
Vous allez bien, Franck ?
Oui, joyeux anniversaire.
Non, oh, merci, c'est gentil.
Et vous faites pas 30 ans, franchement.
Mais c'est normal, j'ai 28.
Je sais, mais c'est...
Bien
c'est,
sûr.
C'est l'amour et l'air marin qui doit donner comme ça.
Oui, voilà. Bon, Franck,
oui.
Passons à autre chose. Est-ce que vous, Franck, vous êtes en couple...
Les sagittaires, c'est les meilleurs, je suis sagittaire.
Vous avez raison, je suis d'accord avec vous, Franck. Est-ce que vous êtes en couple avec votre ancienne meilleure amie ?
Bah, oui, mais c'était au départ ma voisine. Est devenue une amie.
Ah.
Et qui, après une amie, est devenue plus voisine parce qu'elle habite avec moi.
Mais au d'accord, départ, c'est pratique.
Ma voisine, on se rencontrait quand on descendait aux poubelles, quoi.
Mais d'accord, vous, oui, mais c'est votre voisine, mais après vous êtes devenue amie ou tout de suite vous êtes mis en couple ?
On était une voisine amie. On est devenue amie, voisine, après on est devenue amie. Puis après on s'est mis un peu plus tard en couple, une fois qu'il a fait chaud, il a fait froid l'hiver, on s'est rapprochés.
Mais est-ce qu'au départ, vous aviez quand même une arrière-pensée ?
Non, parce que elle était en main, moi je l'étais pas. Donc, étant un garçon bien sous tout rapport, je n'ai pas poussé mes mères dans les orties. Donc, mais bon, après, petit à petit, on s'est rapproché plus. Voilà, il y a eu du petit bricolage à faire chez elle, on changeait une ampoule, tout ça. Et puis après, on a glissé. Au moment de l'hiver, il y a eu du verglas, quoi.
D'accord, j'ai compris, Franck. Bon, vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
Bon, ça fait un an et demi maintenant.
Et vous êtes heureux ?
Épanoui, fabuleux.
Eh ben, écoutez, c'est parfait.
Magnifique, comme les Sagittaires, toujours magnifique, toujours.
Eh ben voilà. Eh ben, félicitations à vous, Franck, et puis bravo. Comme quoi, ça peut marcher. Mais attention, c'était pas une vraie amitié parce qu'il y en avait un qui était en couple et pas l'autre. Donc voilà, on n'est pas sur une vraie amitié qui se transforme en histoire d'amour. Et justement, nous avons Catherine Solano, sexologue et coordinatrice de Doctical, cofondatrice de Doctical, la plateforme de télésanté. Bonjour, Catherine.
Bonjour. Estelle, bon anniversaire.
Merci Catherine. Et quel plaisir de vous avoir pour ce sujet. Parce qu'on n'est pas tous d'accord, Catherine. Est-ce que franchement, c'est une bonne idée de transformer une magnifique amitié en une histoire d'amour ?
Ben écoutez, évidemment, on a entendu le risque, c'est de perdre un ou une amie.
Eh oui.
Mais d'un autre côté, ce qui est formidable quand on part de l'amitié, d'abord, c'est que les statistiques le montrent, c'est que ce sont des couples qui durent plus, qui sont plus solides, où les gens sont plutôt plus heureux et ont plus de satisfaction sexuelle aussi. Et donc, je pense qu'au début, quand on est amis et que ça se transforme, en fait, c'est un amour qui est basé sur la réalité parce qu'on connaît ses amis. Souvent, on se dit, oh, elle est un peu comme ci ou un peu comme ça, mais je l'aime bien quand même. Donc, on projette pas tous nos désirs en se disant, j'ai trouvé le prince charmant ou j'ai trouvé la femme de ma vie. On sait ses limites, mais on l'aime comme elle est ou comme il est. Et du coup, on part sur des bases parfois plus saines, en fait, je pense.
Oui, mais il n'y a pas de découverte. C'est pas un peu plan-plan, Catherine. Il n'y a pas la découverte. Des qualités mais aussi des défauts de l'autre, vous voyez, tout est déjà acquis, en fait on sait quoi.
Oui, mais on a déjà une certaine intimité et le fait de passer de l'amitié, d'ailleurs il y a beaucoup de comédies romantiques qui partent là-dessus parce que c'est quelque chose d'excitant en fait de dire est-ce qu'on va réussir à changer, à faire un pas de côté et à devenir amis, c'est pas évident. Et puis je voulais dire une chose aussi que je trouve intéressante, c'est qu'on n'est pas seulement séduit par le physique de quelqu'un.
Bien sûr.
On peut bien sûr, évidemment ça joue, mais Si vous voulez, moi, je connais des couples qui se sont formés avec des amis, pas forcément les meilleurs amis d'ailleurs, hein, des amis. Je pense à une femme qui m'a dit un jour, j'ai entendu un ami parler de ses valeurs de famille, vous voyez, etc. Et elle s'est dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Et elle est tombée amoureuse en l'entendant parler. Ou je connais un homme aussi.
Ah, Pierre vient de lever les yeux au ciel, hein, je vous le dis.
Non, interrogatif.
On n'est pas tous pareils. Je connais un homme qui m'a dit, moi, j'avais une amie, je la trouvais pas mal, mais c'était une amie sans plus. Et un jour, je l'ai vu aider un vieux monsieur qui avait des problèmes. Il s'est dit, mais elle a du cœur, cette femme, ça sera une maman formidable. Il voulait des enfants. Bah, c'est comme ça qu'il est tombé amoureux d'elle. Vous voyez, donc.
Bah, j'aimerais qu'on dise de moi, tiens, ça va être une maman formidable. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Enfin, c'est un peu réducteur, Catherine, excusez-moi. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais mal pris.
Non, mais il s'est dit, elle a de la générosité. Non, mais pourquoi il s'est dit ça? Parce qu'il voulait absolument avoir des enfants. Et il avait une copine qui n'en voulait pas, donc il s'était séparé pour ça. Donc c'était un de ses critères, disons.
Bah, c'est un peu un amour un peu comptable, quoi. C'est-à-dire que vous faites une feuille de papier, ce que vous voulez, et puis quand ça correspond.
Non, parce qu'il s'était pas dit ça. C'est que ça lui a fait un choc quand il l'a entendu parler. Il s'est dit, mais bon. Elle est vraiment chouette. Non, c'était un petit choc émotionnel, non, pas du tout. Les valeurs, c'est quelque chose d'important dans un couple. Les mêmes valeurs.
Mais je suis d'accord, mais d'habitude dans un couple, on les découvre après les valeurs. Quand on est amis, on sait déjà tout, quoi. On est avec Daniel qui nous appelle des Ardennes. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour. Déjà pour vous dire que j'apprécie beaucoup l'émission et pour vous faire de l'audience, je regarde à la télé et en même temps j'écoute à la radio.
Oh bah écoutez Daniel, mais c'est formidable. C'est vrai, mais c'est vraiment gentil de votre part. Et d'ailleurs ça marche bien, Daniel. Donc merci.
C'est un décalage de son du coup dans mon salon parce que la radio c'est un petit décalage avec la télé, mais je m'y habitue.
Bah écoutez, très bien. Vous pouvez également nous regarder, nous écouter en podcast, Daniel, sur l'application RMC.
Vous faites en même temps. J'écoute celui de la veille en même temps que celui du jour.
Tout ne doit pas être très clair. Mais c'est gentil de votre part, Daniel. C'est vraiment très charitable. Daniel, vous voulez réagir justement sur notre sujet. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée de sortir avec sa meilleure amie ?
Non. Je déconseille de se mettre en couple avec une amie. J'ai essayé de me mettre en couple, moi, avec une amie. C'était une amie de ma femme. Donc,
oui, c'est pas le même sujet.
Forcément, ça n'a pas beaucoup marché. Elle a pas apprécié la démarche, quoi.
Mais c'était pendant le mariage ou après?
Pendant le...
Oui, donc c'est un autre sujet. Là, c'est adultère, bonne ou mauvaise idée. Et c'est pas...
Voilà. Non, mais votre débat, c'est une amie. Donc, moi, c'était une amie de ma femme.
Mais vous étiez mariée.
Mais j'ai pas dit se mettre en couple avec l'amie de votre femme, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée, vous voyez, Daniel? C'est votre amie à vous. Là, c'était pas votre amie, en fait.
Non, du coup, c'est... Oui, oui. Par contre, moi, par exemple, je suis très amie avec une animatrice de télévision. Oui. Et je pense... que même sur un malentendu, je ne pourrais pas conclure, vous voyez.
Écoutez, ça, je ne sais pas, Daniel, mais merci en tout cas d'avoir été avec nous. On a Quentin qui nous appelle de Montélimar. Bonjour, Quentin.
Salut.
Ça va, Quentin?
Ça va et vous, Estelle?
Oui. Écoutez, merci, Quentin. Et alors, vous, Quentin, vous trouvez que c'est une bonne idée parce que vous êtes en couple avec votre meilleure amie, justement.
Ouais, c'est ça. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça se passe super bien, on a très peu d'engueulades. On a une petite fille qui a 1 an et c'est top.
Oh. Mais vous êtes rencontrés à quel âge?
Nous on s'est rencontrés à 18 ans à peu près.
Ouais.
À la base c'était plus parti pour être un flirt. Au final on est devenus amis, mais très très amis. On s'est tout raconté, tout ce qui se passait et tout. Donc on fait tout l'un de l'autre pour revenir à un débat que vous avez eu il y a pas longtemps, je crois vendredi.
Ouais.
Et du coup on s'est tout l'un de l'autre. Au final je lui ai dit que je voulais être plus qu'amis. Et là, ça lui a pas plu sur le moment, donc on s'est pas parlé pendant 2 ans après.
Ah.
Et derrière, on s'est revus, ça a été un peu comme une évidence. Et du coup, on s'est mis ensemble, et tout va bien.
Mais alors, Quentin, à partir de quand vous vous êtes dit que cette amitié, finalement, pour vous, en tout cas, elle s'était transformée en quelque chose de plus fort?
À partir du moment où on n'avait plus vraiment d'intimité l'un pour l'autre. C'était... je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il n'y avait plus vraiment de... Enfin, quand je me lavais à rentrer dans la salle de bain, ça ne se posait pas la question, quoi.
Ah oui, d'accord. Ah oui, vous étiez quand même très, très proche, quoi.
C'est une belle amitié.
C'est plus qu'une amitié. Et à ce moment-là, vous vous êtes dit, finalement, je suis amoureux. Et elle n'a pas accepté, alors?
Non, parce que pour elle, ce n'était pas du tout le cas. Pour elle, c'était vrai, on était vraiment juste amis. Et c'était tout, en fait.
Et qu'est-ce qui a fait que ça a dérapé chez elle aussi, alors?
Il faudrait lui demander, ça.
Oui, écoutez, qu'elle nous appelle, alors. Mais en tout cas, vous vivez une belle histoire d'amour, Quentin.
Impeccable, franchement. Il n'y a rien à dire sur ça. Quand on voit les gens autour de nous, on se prend quand même vachement moins la tête, parce que bah, moi, je connais ses défauts.
Ouais.
Et tous ses défauts, elle connaît tous les miens. Donc, on avait quelques tensions, mais on savait. On savait ce qui se passait avant de se mettre ensemble.
Et vous avez quand même réussi à garder une part de mystère ou pas du tout? Et finalement, c'est ce qui vous plaît de tout savoir de l'autre?
Ouais, non, il y a zéro mystère. On sait tout l'un de l'autre. Il n'y a pas de... C'est... Tous ses amis, je les connais. On connaît les ex de l'un et de l'autre. Il n'y a aucun secret, en fait. On connaît tout vraiment de A à Z.
Et en tout cas, Quentin, manifestement, vous êtes très heureux. Donc, bravo à vous. Et merci de nous avoir appelé. Catherine Solano, elle est belle, l'histoire de Quentin. Mais on voit quand même que c'est pas si facile que ça. Et en tout cas, ça doit pas être si facile que ça de se déclarer quand on devient amoureux de son ou sa meilleure amie, quoi.
Voilà. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce que Quentin dit, c'est qu'il s'est déclaré et que ça n'a pas marché du tout.
Ouais.
C'est seulement 2 ans après. Et ça, c'est un truc qu'il faudrait que les hommes comprennent. C'est que des fois, quand il faut une déclaration, on les envoie balader. La femme les envoie balader, mais que c'est comme s'ils avaient planté une petite graine dans sa tête. Elle, elle n'y pensait pas du tout. Et puis finalement, elle se dit, mais il est pas mal, il m'a dit ça. Et des fois, il faut une semaine, des fois, il faut 15 jours, des fois, il faut 2 ans, comme là. Mmh. Mais ça vaut le coup de revenir un petit peu. Je ne parle pas de harceler quelqu'un du tout, mais il faut quand même retendre une perche pour voir si jamais elle ne s'était pas dit, tiens, finalement, il est pas mal, il me plairait bien, j'y avais pas pensé, vous voyez. C'est ça que je trouve intéressant dans son témoignage.
Mais moi, je suis d'accord, mais en même temps, quand, par exemple, vous êtes très copain avec quelqu'un, que vous faites votre déclaration, vous êtes à peu près sûr que si l'autre ne partage pas vos sentiments, bah, c'est la fin de l'amitié, quoi.
Oui, parce que ça crée une gêne, en fait, parce qu'on n'est pas du tout, on n'est plus du tout sur le même plan. Donc, il y en a un qui est sur le plan de l'amitié et l'autre de l'amour. Soit, il faut que celui qui est amoureux dise, bon, bah, ok, tant pis, je mets un couvercle, mais ça va pas être très naturel. Où l'autre va se sentir mal à l'aise et du coup, et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sortent avec un ami ou une amie, c'est plutôt un ou une amie que le ou la meilleure amie, parce que avec le ou la meilleure amie, on a toujours peur de casser quelque chose plutôt que de construire,
Ça veut dire que l'amitié n'était peut-être pas construite sur de très bonnes bases. Thibaut, vous avez des messages sur l'application RMC.
Oui, vous êtes très nombreux à réagir là-dessus. Puis d'ailleurs, je voudrais revenir sur le témoignage de Daniel tout à l'heure. Estelle, il vous a marqué cet auditeur et il voulait vous dire une dernière chose. Il est avec nous.
Ah bah allez-y, Daniel.
Daniel, vous êtes là?
Ouais, bah non, je suis juste déçu parce que j'ai travaillé 6 ans avec Estelle Denier, puis elle m'a même pas reconnu, donc.
Oh, Pierre-Antoine! J'avais pas, Pierre-Antoine Damecourt. Ah. Bah, merci. J'avais pas reconnu ta voix.
C'est impossible, Estelle. J'ai cru que tu avais reconnu et que tu avais joué le jeu. Bah écoute.
Bah même pas.
Daniel t'embrasse, hein.
Pierre-Antoine Damecourt qu'on retrouve d'ailleurs sur la chaîne. L'équipe, merci beaucoup. Pierre-Antoine, je me disais pas qu'il était bizarre. Qu'il était bizarre, c'est bizarre. Je me disais, c'est bizarre tout ce qu'il nous dit et tout quand même. Mais il était drôle et ça, j'aurais dû.
C'était très drôle.
C'est ça. À l'humour, j'aurais dû reconnaître Pierre-Antoine Damecourt, évidemment. On est avec Franck qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Franck.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien, Franck? Merci Franck. Et vous aussi, vous êtes avec votre meilleur ami?
Oui, depuis 11 ans maintenant.
Ah oui, donc là c'est un truc qui dure et qui marche, quoi.
Ouais, donc on s'est mis ensemble tout jeune, hein. J'avais 18 ans, elle 17 ans.
Ah oui?
Ah oui, donc du coup on faisait partie d'un groupe d'amis à la base et on s'est rencontrés en soirée.
Puis, d'accord.
Flirt en flirt, petit à petit, au début c'était flirt amitié, quoi, on va dire. Et puis petit à petit on s'est mis ensemble.
Ouais, mais c'était pas votre meilleur ami en fait, vous aviez toujours une idée derrière la tête depuis le début?
Non, pas depuis le début. Non, vraiment pas. Au début, c'était vraiment copine de soirée, quoi.
Et vraiment, qu'est-ce qui a fait que...
On se voyait en soirée, on se voyait la journée, avec le groupe d'amis. Et de petit à petit, on est devenus meilleurs amis. Et un beau jour, c'est venu des deux, quoi.
Et elle aussi, pour elle, c'était tout de suite, ça a été une évidence ou elle a mis un petit peu plus de temps à craquer pour vous?
Alors, c'est moi qui ai fait la démarche. Et au début, elle m'a dit pourquoi pas, on tente. Et puis du coup, ça a bien fait tenter, ça fait 11 ans.
Voilà, bah 11 ans. Bah écoutez, bravo en tout cas, Franck, voilà, qui est avec sa meilleure amie depuis 11 ans. Je sens que ça vous donne des idées, Fred Hermel. Bah, mais vous devriez tenter.
Mais je suis en train de regarder, de penser à toutes mes amies, de faire la liste là, mais je n'en trouve pas pour l'instant, mais bon. On va réfléchir.
Moi, je reste persuadé que c'est une mauvaise idée. Je suis une mauvaise expérience de ma part, c'est vrai. Mais je continue à dire que si on a sa meilleure amie ou son meilleur ami, ça la reste. Et aller avec elle, au final, c'est prendre le risque. Si déjà elle accepte, donc on n'est pas sur les mêmes bases, s'il y a refus, mais c'est prendre le risque de détruire cette amitié. Si c'est sa meilleure amie, c'est qu'on l'apprécie pour ce qu'elle est, pour cette relation amicale. Et en plus, très importante. Et finir en couple avec elle, si ça arrive, c'est prendre aussi un risque supplémentaire à ce que si en cas de divorce, en cas de séparation, c'est terminé.
Mais Catherine Solano, est-ce que finalement, quand on tombe amoureux de son meilleur ami, c'est pas un peu la facilité? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui nous connaît bien, il est à côté, et puis ça veut dire qu'on est célibataire, donc finalement, on n'a rien d'autre à côté, quoi.
Je suis pas sûre, parce qu'on entend bien qu'il y a une difficulté de passer de l'un à l'autre, donc c'est peut-être presque plus une difficulté. Et là, justement, j'ai trouvé que Franck, il était hyper subtil, parce qu'il a bien dit qu'il a flirté. En fait, il lui a pas dit « Bon, tu es ma meilleure amie, j'aimerais bien qu'on sorte ensemble. » Là, on peut se prendre une claque. Il lui a peut-être plutôt fait des petites allusions, des petits gestes. Et si vous faites ça, que vous sentez que l'autre ne veut pas, bah, vous arrêtez, ça reste votre meilleure amie. Si vous sentez que, j'allais dire, là, pas mort à l'hameçon petit à petit, bah, vous ramenez votre ligne. Bon, je ne suis pas pêcheuse, mais...
Et oui, mais c'était une très belle métaphore, hein, Catherine.
Du coup, je pense que c'est aussi la subtilité qui compte et qui fait qu'on va pas... on va pas se prendre une veste directement. Mais je pense pas que ce soit une solution de facilité. Je crois pas. Parce que justement, au contraire, on fantasme beaucoup moins sur une personne qu'on connaît bien, parce qu'on connaît.
Ah ben, on fantasme même pas du tout.
Ben, on peut, si, parce qu'en fait, tout le monde a toujours un jardin secret et mystérieux, il y a toujours des choses à découvrir chez quelqu'un. C'est même quand on entend quelqu'un dire « oui, on se connaît, il y a zéro mystère », c'est pas vrai, il y a toujours du mystère chez quelqu'un, on est toujours étonné par l'autre par moment, hein, je pense.
Bon, ben merci. Eh ben merci beaucoup en tout cas Catherine Solano d'avoir été avec nous. Pierre n'est toujours pas.
Non mais après c'est mon expérience personnelle, mais moi je continue à penser que l'amitié forte, et je parle d'amitié forte, hein, je mets de côté amis, on parle des meilleurs amis à ce niveau-là. Mais... l'amitié forte garçon-fille, s'il n'y a pas une attirance sexuelle physique au départ, c'est pas vrai. S'il y en a une.
Vous avez été meurtri, Marc.
Mais je veux dire, si on est ami avec quelqu'un qui, en plus, physiquement pourrait nous convenir, c'est qu'on n'est pas ami avec elle. On n'est pas ami avec elle.
Je suis assez d'accord avec vous, même si les arguments de Catherine Solano et de nos auditeurs étaient extrêmement percutants. Alors, on va trier dans tout ça avec la consultation qu'on a faite sur Twitter. Thibaut Texer, se mettre en couple avec un ou une amie, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Non. Pour 65% d'entre vous, c'est une mauvaise idée. Vous êtes 35% à penser que oui.
Un tiers.
Oui, c'est ça, oui, c'est mitigé.
Dans un instant, surtout, restez bien avec nous. L'histoire incroyable du jour, celle de Romain, qui a commandé une carte graphique sur Amazon et qui a reçu à la place une bouteille d'alcool turc. Et il n'arrive pas à se faire rembourser. On essaiera de l'aider, évidemment. Il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis, on ouvrira peut-être le coffre RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et dans cette dernière partie, vous le savez, on vous aide chaque jour grâce à RMC S'engage pour vous. C'est maintenant.
RMC, Estelle Midi.
RMC S'engage pour vous.
Et je crois, Élise Donjon, que l'histoire du jour est l'une de mes histoires préférées depuis la création de cette rubrique. J'adore les histoires ubuesques, mais alors là, franchement, celle-là, elle est plus. Vous avez été contacté par Romain à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Romain qui est en litige avec Amazon.
Et Romain qui voulait devenir pilote d'avion quand il était enfant. Un rêve de gamin qu'il n'a jamais pu réaliser, faute d'avoir 10 sur 10 à chaque œil. Il est depuis devenu informaticien et passe tout son temps libre sur des jeux de simulation de vol. Pour ça, il a besoin d'un ordinateur très puissant. Alors, lorsqu'il voit début octobre la Rolls-Royce des cartes graphiques en promotion sur Amazon, il fonce. 1 300 € au lieu de 2 800, une aubaine. Commande qu'il reçoit quelques jours plus tard à son travail avec une petite surprise.
Quand j'ai reçu le colis, il n'y avait rien qui était choquant, le poids était là. Les dimensions du carton correspondaient également. Le carton, il n'avait pas de défaut. Quand j'ouvre le haut, je vois, une bouteille, quoi. Bon, ça ressemble pas à ce que j'ai commandé. On est tous un peu estomaqués derrière moi. Au départ, je me suis dit, mais c'est une blague ou c'est... Mais non, pour le coup, pas du tout.
Romain a donc reçu une bouteille de raki, c'est un alcool turc d'une valeur de 40 €. On est donc loin de la commande initiale. Photo à l'appui, il contacte donc Amazon qui lui propose de renvoyer le produit.
Mais ne me dites pas qu'Amazon refuse de le rembourser.
Eh ben si, c'est même pire que ça, hein. Tenez-vous bien. Mais... après enquête, Amazon lui explique que si, c'était bien une carte graphique qui lui a été envoyée, c'était bien une carte graphique dans le carton. Et donc s'il veut être remboursé, lui dit-on, il doit renvoyer le produit qu'il n'a donc jamais reçu.
Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Amazon, si ça a été un vol ou quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas entre guillemets, c'est pas mon problème. Et le problème, c'est qu'Amazon, c'est enfin nous, on est vraiment une toute petite fourmi et Amazon, c'est une grande termitière. Enfin, franchement, ça m'a bien dégoûté parce que j'ai toujours été un client fidèle et j'ai vraiment été reçu un peu comme un malpropre, etc. Alors, j'avais rien fait. C'est leur faute. Elle est chez eux, elle est pas chez moi. Moi, je suis juste un client qui a ouvert un colis. C'est tout ce que j'ai fait.
Voilà, il a ouvert un colis, Romain, et il a trouvé une bouteille de raki à la place d'une carte graphique, ce qui évidemment n'a rien à voir. Bah, cette histoire est lunaire. Mais est-ce que vous avez pu aider Romain ?
Oui, absolument. Grâce à notre intervention, Amazon a réétudié son dossier. Il va donc être remboursé de l'intégralité de la somme d'ici quelques jours. En revanche, l'entreprise refuse de nous expliquer le pourquoi du comment. Il y a effectivement eu un problème, nous dit-on, en nous précisant qu'il s'agit d'un dossier particulier, sans plus de précision. On ne saura donc pas où est passée cette carte graphique, mais ce qu'on sait, c'est que Romain n'a pas touché à son raki.
Ah, mais j'allais vous demander justement.
Ah, bah non.
Il n'a qu'à nous l'envoyer. Bah, qui nous l'envoie, parce qu'il n'y a pas touché.
Mais
on l'a quand même bien aidé.
Il l'a renvoyé à Amazon pour tenter de se faire rembourser.
Non, parce que, alors justement, on m'a expliqué, mais il fallait jamais rien renvoyer à Amazon. C'est-à-dire que, par exemple, Amazon vous envoie, je dis n'importe quoi, parce que ça m'est arrivé, un appareil à raclette, et vous dites, bah non, c'est pas l'appareil à raclette que je voulais. Et ben, bah, Amazon, ils vous disent, ne renvoyez pas, parce que de toute façon, si on renvoie, c'est trop de boulot pour eux. Mais en revanche, ils vous renvoient un deuxième appareil à raclette. Donc, en fait, parfois, vous.
Alors, je sais
il faut
pas si.
Vous gruger une fois par an, pas plus, quoi.
Ouais, je sais pas si c'est une règle. Mais là, en l'occurrence.
Bah, tu dis, t'as commandé un pull sur Amazon. Et bah, tu dis, je l'ai jamais reçu. Amazon va t'en renvoyer un, en fait.
C'est pas bien ça.
Mais bien sûr que c'est pas bien. Mais en fait, ça leur coûte trop cher ou ils sont obligés de jeter, de recevoir des produits en fait défectueux ou des erreurs.
Sauf que là, on parle quand même d'un produit à 1300 euros.
Là, oui,
donc je pense qu'Amazon, voilà.
On parle pas d'un appareil à raclette.
Exactement.
Mais moi, je me suis quand même retrouvé avec deux appareils à raclette et j'avais rien demandé.
Et donc vous nous invitez tous.
Je pourrais, mais vous savez, j'ai un petit appartement. Enfin, c'est pas facile, vous savez. Donc. Mais oui, mais un jour, bien sûr. Mais voilà. Donc Amazon quand même a remboursé Romain. On parle de quoi demain, Élise ?
Alors demain, on parle des bons Tonneo First qu'on achète chez le buraliste. Non, ouais, bah oui, ça parle à personne, voilà, mais il faut écouter demain dans ce cas. Non, ce sont des bons de paiement. En gros, c'est pour les gens principalement qui ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire, qui sont fichés Banque de France, etc. Ils vont chez leur buraliste, ils donnent l'argent en espèces, ils récupèrent un bon qui permet de créditer une carte bancaire et tout ça sert à un vaste réseau d'arnaques et on vous en parle demain.
Mais ce serait très bien pour Anne-Sophie Saint-Père, enfin, sauf s'il y a des arnaques, puisqu'elle n'a plus de carte bleue.
J'écouterai demain.
Oui, voilà. Rendez-vous
d'attention.
Merci beaucoup, Élise Dangean. Et encore une nouvelle affaire résolue grâce à toute l'équipe d'RMC s'engage pour vous. Vous n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez un souci, un problème, vous écrivez à Élise et toutes ses équipes à RMC pour vous, @rmc.fr. Dans un instant, peut-être que nous ouvrirons le coffre RMC. Et puis, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec le chanteur du jour. Ça, c'est assez étonnant. Le centre d'accueil du jour et le palmarès du jour. On vous donnera les personnalités politiques préférées des Français. Il y a pas mal de surprises quand même. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h37 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure du coffre RMC. C'est parti.
Oserez-vous ouvrir le coffre de Noël ?
Oh, oh, oh. Oserez-vous ouvrir le coffre de Noël ? RMC, hier notre auditeur ne l'a pas ouvert, Thibaut. Mais qu'y a-t-il dans ce coffre et que peut-on gagner ?
Alors, vous pouvez gagner dans ce coffre, vous repartez déjà si on vous appelle avec une Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 et deux volants Switch. Et si vous décidez d'ouvrir le coffre, vous allez pouvoir gagner une PlayStation 5 ou une PlayStation Classic Mini ou un chèque allant de 500 à 2000 euros.
Et on joue aujourd'hui avec Cassandra qui nous appelle de Lyon. Bonjour Cassandra.
Bonjour Estelle. Bonjour tout le monde.
Et Cassandra, vous faites quoi dans la vie ?
Je suis aide-soignante.
Aide-soignante. Ah ben on a vraiment très envie de vous faire plaisir, Cassandra, aujourd'hui. De toute façon, on va vous faire plaisir, Cassandra, parce que vous allez de toutes les manières repartir avec un magnifique cadeau. Et pour l'instant, votre cadeau, c'est une Nintendo Switch et le jeu Mario Kart et Mario Kart 8 et deux volants Switch pour toute la famille. Cassandra, est-ce que vous gardez ce cadeau ? Est-ce que vous décidez d'ouvrir le coffre ?
C'est un super cadeau.
C'est un super cadeau, franchement.
Je suis assez joueuse, je me dis, pourquoi pas ouvrir ce coffre ?
Ouais, mais si vous tombez pas sur la PlayStation 5 ?
Bah, c'est pas grave, j'aurais joué, j'aurais tenté.
D'accord. Vous avez des enfants, Cassandra ?
Non, pas encore.
D'accord, donc c'est pour jouer toute seule avec votre compagnon ?
Oui, avec mon compagnon, ouais.
Cassandra, pour l'instant, vous avez une Nintendo Switch, mais vous choisissez d'ouvrir le coffre. C'est votre dernier mot ?
Oui, c'est mon dernier mot.
Nous allons faire le code Cassandra. 1205 E. Alors attendez, non, je vais le refaire parce que attendez, ça c'était bon. Je refais le code, hein, Cassandra. Alors, 1205E. Là, c'est bon. Devant moi, Cassandra, il y a une boîte de Noël, une boîte dorée. Et dans cette boîte, il y a une feuille de papier. Sur cette feuille de papier, il est inscrit, Cassandra, une PlayStation Classic Mini.
Ah, bah c'est bien quand même.
Ouais, c'est un super cadeau et vous allez vous éclater avec votre compagnon. En tout cas, on est ravis de vous offrir cette console, Cassandra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on continue à faire gagner des cadeaux sur RMC, Thibault.
Eh oui, tentez votre chance. Continuez à vous inscrire sur rmc.fr. Prochain coffre dans le Moscato Show et Rotten sans flamme.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui dans Estelle Midi. Et nous allons commencer tout de suite, Thibaut, avec le palmarès du jour.
C'est celui des politiques préférés des Français. En tête de ce classement YouGov pour le Huffington Post, on retrouve Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, suivi par Marine Le Pen. Elle est deuxième. Et surprise, Jordan Bardella fait son entrée sur le podium en troisième position à 27 ans. Le président du Rassemblement National gagne 3 points par rapport au dernier baromètre. Nicolas Sarkozy, Marion Maréchal, Bruno Le Maire et Olivier Véran suivent. Rachida Dati, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon sont 9 et 10e.
Non mais donc c'est quand même un baromètre qui est très à droite.
Hein. Ah oui, non mais ce qui m'étonne vraiment, est-ce qu'on a la réponse et la démonstration que la France, je ne vais pas dire malheureusement, mais que la France est un pays de droite. Les 8 premières personnalités préférées des Français sont des personnalités politiques à droite et à l'extrême droite. La première personnalité politique française de gauche est 9e, Fabien Roussel. Voilà, donc constat, je n'ai rien
donc
à dire de plus.
Beaucoup de gens disaient que c'était la personnalité de gauche préférée des gens de droite.
Et oui, et ensuite, donc même les 9 premières à rigueur dans ce cas-là.
Bon, Mélenchon, on ne peut rien dire.
Mélenchon est 10e, donc les 9 premiers, c'est Roussel est mis dans le sac. Les 8 premiers sont des personnalités politiques de droite et d'extrême droite. Je constate. Je ne vais pas rajouter. Je vais rien rajouter de plus. Je constate simplement que la France est de droite.
Vous ne voulez rien rajouter. Jordan Bardella, qui fait quand même une entrée fracassante dans ce classement, ça vous étonne, Anne-Sophie Saint-Père ?
Oui, puis ça m'inquiète. En fait, ça fait quand même 2 personnes d'extrême droite sur le podium qui ont des propos terribles sur la migration. Enfin, c'est quand même un parti en termes de position qui est hyper rétrograde, et y compris aussi sur les questions de droits des femmes. Enfin, voilà. Donc, bon, c'est quelque chose qui s'observe partout en Europe, hein, mais c'est toujours triste de le voir dans son pays.
Et quand même, l'extrême gauche. Alors bon, est-ce que Fabien Roussel est d'extrême gauche? Mais 9e et 10e. Mais en revanche, la gauche classique, il n'y a rien, quoi. C'est ça qui est quand même étonnant, Fred Hermel. Bon, on avait bien vu dans les intentions de vote que, et même le vote de la dernière présidentielle, que la gauche classique n'existait plus vraiment. Mais enfin, là, elle n'existe plus du tout. Donc,
La gauche classique, c'était le Parti Socialiste. Anne Hidalgo a fait 1,74% à la dernière élection présidentielle. Oui, je suis d'accord avec Pierre, mais la France a toujours été de droite. La France est un pays de droite avec,
enfin là,
un moment,
plus que de droite,
avec des moments de gauche.
Ah, il y a eu l'espérance,
et Fabien Roussel, ce n'est pas l'extrême gauche, c'est la gauche, on va dire, classique. La vraie gauche classique.
Ah, c'est le Parti communiste.
Parti communiste. Non, mais en France, la gauche. Parce qu'il reste la gauche qui défend les ouvriers et les paysans. C'est-à-dire que ça reste une gauche qui est attachée au social avant le sociétal, que porte une autre
gauche. Mais le RN va te dire qu'il défend les ouvriers. D'ailleurs, c'est le premier parti ouvrier de France.
Bien sûr, mais bien entendu. Bah, dans mon département, le Pas-de-Calais, les gens votaient socialiste et communiste. Maintenant, ils votent Rassemblement National. Et puis, moi, je suis pas du tout étonné de voir Jordan Bardella à ce niveau-là. On peut aimer ou pas.
Il est tout jeune en politique.
Mais oui, il a 27 ans. On peut aimer ou pas les idées de Jordan Bardella. C'est un surdoué de la politique. Il est très très fort. Il a pris en main, il a été élu triomphalement à la tête.
Il n'a jamais travaillé de sa vie. Je reprends ton discours sur.
Bah oui, comme beaucoup de politiques.
Il n'a jamais travaillé.
Comme Jean-Luc Mélenchon,
mais
par exemple,
qui a été prof d'histoire.
Combien de temps il a été prof d'histoire, Jean-Luc Mélenchon? Très peu de temps.
Il a travaillé.
Oui, enfin,
il est troisième, il est dixième. J'ai rien à dire. Non, mais Fred, j'ai rien à dire. Jordan Bardella est troisième, Mélenchon est dixième. Voilà, donc constat.
C'est tout.
Mais c'est vrai que parmi les jeunes loups, on va dire, de la politique, il y avait Gabriel Attal aussi.
Il y avait Adrien Quatennens, mais bon, terminé, je pense.
Ça me paraît normal qu'il n'apparaisse pas dans les.
Oui, non, mais je
pas prêt d'y
si
y
je
arriver,
veux faire preuve d'empathie et parler à la place du peuple de gauche, je pense qu'on sera en dépression. Ouais. Là, oui. La personnalité, la jeune personnalité qui pourrait représenter un nouvel idéal à gauche.
On l'a pas.
Et puis en plus tu vois le premier et la deuxième, c'est peut-être le futur deuxième tour de l'élection présidentielle. Édouard Philippe et Marine Le Pen.
Bah, encore faut-il que Édouard Philippe se présente.
Oh, tu crois qu'il y pense en se rasant ?
Ouais, je pense, ouais. J'y pense. Ah, ça va vous plaire. Un peu de musique et de grande musique. Ah, le chanteur du jour.
Eh oui, vous reconnaissez.
Francky Vincent.
Merci Estelle. Le Guadeloupéen de 66 ans a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Il fait partie d'une promotion de 450 chevaliers d'une liste publiée fin novembre. Une gratification du ministère de la Culture qui vient reconnaître sa participation au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde. Francky Vincent, c'est plus de 170 chansons, parmi lesquelles Fruit de la Passion ou encore Alice, ça glisse.
Mais il y a d'autres chansons également.
Oui.
Il y a quoi d'autre, Thibaut?
Je vous laisse le dire, Estelle.
Mais non.
Non, je peux pas le dire.
Bah si.
Je vous laisse le dire, ce sera. Non, mais ce sera mieux si c'est vous.
Il y a quoi d'autre comme chanson?
Ce sera mieux si c'est vous qui le dites.
Bah, non, pas du tout.
Non, mais je sais plus. Voilà, j'ai cité les deux, là.
Bah, on va l'écouter.
Voilà.
Bien belle chanson à texte.
Ouais.
Alors là, quand même, excusez-moi, mais moi les bras m'en tombent. Francky Vincent, chevalier des arts, des lettres, enfin, c'est quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric Mel ?
Mais moi, je trouve ça très bien.
Ah bah écoutez,
je trouve ça très bien. Alors moi, je suis un admirateur de Jacques Brel, de Léo Ferré, de Barbara.
C'est un autre style de musique.
Vincent, mais Francky Vincent est une idole dans une partie de notre pays qu'on appelle les Antilles, à la Guadeloupe, à Martinique. C'est vraiment, c'est une idole absolue, quoi. Il a vendu beaucoup de disques. Il a fait la promotion d'une certaine chanson française, d'une certaine forme de poésie à la française. Je vois pas pourquoi Francky Vincent, qui fait ce métier
la poésie, Baudelaire, excusez-moi.
Mais, et alors, excuse-moi, il y en a plein qu'on promeut, on promet plein de rappeurs, je peux dire qu'on est loin de Baudelaire. Hein. Et puis lui, il parle d'amour. Moi, on donne des prix à plein de gens qui parlent de haine. Lui, il parle d'amour. Et ben moi, je trouve ça très bien. Et je trouve que le mépris pour la culture populaire qu'on peut sentir depuis dans certains commentaires, dans les médias français, les médias très parisiens, très bobos parisiens, depuis la nomination de Francky Vincent, c'est une idole, c'est un immense chanteur français qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et c'est normal qu'il soit décoré par la République.
Qu'il soit récompensé, mais oui, très bien, qu'il ait du succès formidable. On a tous dansé sur Francky Vincent, pas souvent bourré, on va pas se mentir, mais
il en faut
on danse rarement à jeun sur Francky Vincent, enfin bon, bref. Donc c'est un chanteur de fin de soirée, c'est formidable, mais de là à lui donner le titre de chevalier des arts et des lettres,
bon, après, on peut relativiser la récompense dans la mesure où beaucoup sont récompensés chaque année. Peut-être que beaucoup ont cette récompense justement de chevalier des arts et des lettres, donc ça vaut pas grand chose. Il ne va pas derrière avoir une prime à vie, une retraite à vie.
Non, il ne sera pas au Panthéon. Bon.
Rassurez-vous, c'est un titre honorifique. Pour lui, ça, il sera très content de l'avoir, et très content qu'il ait été désigné. Et je rejoins Fred là-dessus. Il n'y a pas de petite culture, il n'y a pas de sous-culture. Il faut respecter toute forme de culture. Tout comme précédemment, on avait méprisé le manga, qui est le premier produit culturel français en termes de vente, qui est un produit culturel à part entière, comme la bande dessinée. Le manga et la bande dessinée ont aussi droit à des récompenses et à des gratifications. Donc Francky Vincent, il a aussi droit, il représente une culture particulière. Je n'y adhère pas, je ne soutiens pas. Moi, ce que je dis, c'est que la récompense des chevaliers des arts et des lettres, ça ne vaut rien. C'est pas ça, ça va pas me perturber. Tout le monde ne l'a pas, mais lui, au moins, comme l'a dit Fred, il a vendu beaucoup de disques. Mmh. Il représente une culture.
Bah, on peut l'affilier à Jules.
On pourrait, bien sûr, on pourrait. Et ça ne me choquera pas. Ça ne me choque pas tant que ça ne me concerne pas directement. C'est pas Jules ou Francky Vincent qui vont chanter lors de la cérémonie d'ouverture aux Jeux Olympiques de Paris, par exemple.
Je ne sais pas.
Attention, parce que si Annie Hidalgo choisit, faut se méfier. Hein.
Maître Guy, ça fait pas mal de cérémonies, donc vous savez.
Il est au Qatar, lui, donc il va rester là-bas.
Il a fait aussi la Coupe de la Ligue, vous savez. Oui, excusez-moi.
Il fera sa minute clôture au Qatar.
On n'est jamais à l'abri de rien. C'est pas d'idée comme ça.
Ce que je veux dire, c'est que moi, je répète, il n'y a pas de petite ou des grandes cultures. Il n'y a pas de hiérarchisation de la culture. Toute forme de culture, quelle qu'elle soit, est en soi une culture. Le manga, la bande dessinée, le reggaeton, le rap, Francky Vincent, peu importe, tant qu'il y a de la production.
On va pas étudier des mangas à l'école.
Mais pourquoi pas? On le faut bien au Japon. Au Japon, c'est étudié, c'est un art à part entière. La bande dessinée est un art à part entière. Toute forme de culture et de production artistique est en soi un art à part entière.
Non mais là on parle surtout des paroles, c'est pas le zouk ou quoi.
Si on allait traduire les paroles de certaines musiques américaines, je peux vous dire qu'on serait étonné.
Oui, mais eux n'ont pas le titre de chevalier des arts et des lettres.
Oui, mais
non, ils ont la Légion d'honneur.
Anne-Sophie Saint-Père, vous êtes touchée par cette décoration?
Alors, touchée, non. Après, bon, voilà. Non, mais après voilà, c'était 450 à la recevoir. Effectivement, il a vendu beaucoup de disques. Bon, et effectivement, ça fait pas de lui un chevalier des lettres et de la culture. Voilà, effectivement, les paroles sont assez simples, mais efficaces en fin de soirée. Donc,
oui, c'est ça.
Donc voilà.
Il y a une certaine efficacité, je ne nie pas.
Non, puis en plus, il y a un truc très sérieux, c'est que la République doit décorer l'ensemble du représentant de l'ensemble des territoires français.
Et ça, c'est très bien.
Et ça, c'est très bien qu'on n'oublie pas les Antilles. Voilà,
très bien. Parce
Jules sera récompensé pour Marseille.
Et je ne sais pas, est-ce que la Compagnie créole, qui a marqué toute notre jeunesse, a déjà reçu
peut-être.
J'ose espérer.
Oui, parce que là, c'était merveilleux. Ça,
j'ai beaucoup dansé sur le bal basqué également. Hein, donc, non, mais voilà. Nous allons passer, c'est un autre sujet, au centre d'accueil du jour.
Il est situé dans le nord de Paris. Le Paris Event Center sert de centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens et seulement ukrainiens. Hier, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des associations Médecins du Monde et Utopia 56 d'ouvrir ce centre d'hébergement aux autres nationalités. Un centre qui compte entre 200 et 250 lits et qui n'accueille en moyenne que 120 à 130 personnes par nuit, selon les chiffres fournis par la préfecture d'Île-de-France au tribunal hier.
Ça paraît hallucinant, Anne-Sophie Saint-Père.
C'est hallucinant. En plus, là, on a des centaines de jeunes qui campent là dans le froid à Palais-Royal parce qu'ils ne sont pas hébergés. Si on rajoute ça aux 3 millions de logements vacants en France, moi, je ne comprends pas qu'on laisse des gens à la rue. Je ne comprends pas qu'on ne laisse pas tous les lits ouverts possibles à disposition des gens qui sont à la rue. Là, il commence à faire vraiment froid. C'est scandaleux de voir ça. Il y a 700 personnes qui meurent par an tous les ans dans la rue. Et c'est probablement sous-évalué. Donc voilà, il faut ouvrir les dispositifs d'hébergement maintenant.
Mais quelle est la justification du tribunal? Comment justifier qu'on discrimine de façon positive les Ukrainiens, qui est très bien en soi, et qu'on discrimine négativement tous les autres? Pourquoi on choisit vous pouvez et vous ne pouvez pas?
C'est une sélection en fait.
Le tribunal a validé la sélection, a validé que les Ukrainiens pouvaient être logés.
C'est incroyable.
Et alors qu'il fait actuellement la nuit à Paris, il doit faire 0 degré je pense. Il va avoir effectivement, si on continue comme ça, des morts de froid dans la rue. Et on sélectionne des gens qui peuvent dormir à l'intérieur, chauffés. Et des gens qui vont dormir dehors. Mais moi, je comprends pas.
Alors que tu laisses des places vacantes. Parce qu'à la limite, on te dit, c'est un centre pour Ukrainiens, t'as 150 places, t'as 150 Ukrainiens. Bon, bah, ok, ça y est, c'est rempli. Mais là, il reste 100.
Il reste
plus de 100 places vacantes. C'est des places vides. Elles ne bénéficient à personne.
Les réfugiés ukrainiens,
un minimum de droits, quand on lit la Constitution, chaque homme est libre et égaux en droit, qu'on soit français ou étranger. Et donc, un Ukrainien n'a pas plus de droits qu'un Érythréen, qu'un Malien. Enfin, je sais pas.
Là, c'est le petit bout de la lorgnette d'une incohérence de tous les hivers. C'est-à-dire qu'il y a des logements, il y a des centres d'hébergement, il y a des immeubles vides en France, à Paris, et il y a des gens dans la rue et on n'arrive jamais à faire se matcher les deux. Il y avait des présidents qui promettaient zéro SDF. C'est parfait, c'est particulièrement choquant parce qu'on les voit les lits, mais en fait tous les hivers c'est comme ça, tous les hivers il y a des gens à la rue qui ne devraient pas l'être parce qu'en fait la France a les moyens de les loger. Il y a des endroits à réhabiliter, il y en a qui sont déjà tout près comme celui-là et c'est excessivement choquant. Les commence à faire très froid et encore une fois en ce moment il y a plusieurs centaines de jeunes migrants qui campent devant le Palais Royal
ils sont pas ukrainiens.
C'est-à-dire que d'un point de vue constitutionnel, c'est incroyable. Des bras m'en tombent. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est ce que dit la justice. C'est qu'on ne mélange pas des réfugiés qui sont arrivés illégalement par bateau, etc. Et ceux qui campent justement, c'est des Érythréens justement, qui campent devant le Palais Royal, le Conseil d'État en l'occurrence, avec des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne mélange pas des nationalités.
Tu vas aider les Ukrainiens et pas les autres.
Et qu'on ne mélange pas des cultures. C'est-à-dire qu'on dit, voilà. Et ça, ce n'est pas possible de par la Constitution française.
Bah oui.
Il y a quelque chose de...
paraît hallucinant.
Moi, je m'étonne qu'un tribunal ait conclu.
Il y a sûrement un point de droit sur lequel se
sont pris.
Il y a le droit et la morale.
Au-delà de ça, il y a même le droit. Parce qu'en fait, les demandeurs d'asile, il y a une directive européenne accueil et on est obligé de les héberger normalement. Donc en fait, même si on suit le droit. Alors, j'ai pas vu cette décision et je serais curieuse de la lire, mais en droit, il y a une question de droit au logement, de respect de la dignité humaine et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France.
Mais je pense que les associations vont se mobiliser et que les lits qui sont vacants ne vont plus l'être dans quelques heures. Ça paraît impossible, voilà, d'avoir des lits d'hébergement qui sont ouverts, qui sont vides et d'avoir autant de personnes à la rue et qui ne peuvent pas en bénéficier parce qu'elles ne sont pas ukrainiennes. Ça paraît totalement aberrant. Ouais. On va terminer très rapidement avec le soutien du jour.
Et c'est celui de l'État qui envisage un coup de pouce à Île-de-France Mobilité concernant la hausse du prix du Navigo. Il est essentiel de protéger les usagers, expliquait ce matin le ministre délégué au transport Clément Beaune, répond à l'appel de la présidente LR de la région Valérie Pécresse qui évoque une hausse de 20%. Le sujet sera sur la table d'un conseil d'administration du groupe demain visant à établir le budget pour 2023.
Un passe Navigo à 90 euros par mois, ça fait cher, surtout vu le nombre de métros.
À 2,30 euros.
Exactement, j'ai vu ça la dernière fois. Nous sommes avec Vincent Moscato, le super Moscato Show qui va démarrer dans un instant. Salut Vincent.
Comment va Estelle? Bon,
elle va bien,
messieurs dames. Oh là, samba, t'as vu le Brésil hier?
Ouais, c'était bien.
Oh non, mais c'était bien. Est-ce que le Brésil, ben là on se repose encore une question, on est perturbé. Est-ce que c'est meilleur que l'équipe de France? Est-ce que c'est la meilleure équipe de cette Coupe du Monde?
Voilà. Moi j'ai parié sur eux.
Ah,
au début de la Coupe du Monde.
Ils me font peur. Hier, Neymar qui revient bourre et tout, ça joue bien. Ça joue bien, c'est précis. Ça risque de faire mal. On se dirige peut-être vers une finale France-Brésil.
Ce serait
magnifique. France-Brésil, c'est comme au rugby, c'est France All Black. Je veux dire, c'est des affiches qui filent l'eau à la bouche. Je vais vous dire, un super Moscato Show d'une heure, mais alors du gaz à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Oui, bonne émission, Vincent Moscato. Nous, Estelle Midi, on revient demain, midi 15h sur RMC Story. Salut à tous.